Bonjour à tous, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes tous sympathiques. Donc, je vais l'être moi aussi, dans le sens que, eh bien, nous nous communiquons la vérité de la parole de Dieu. Vous savez que pendant deux dimanches, nous avons parlé de l'évangélisation, de notre mission, de l'ordre de mission que Jésus a donné à tous et à toutes, sans exception. Et aujourd'hui, je voudrais aussi parler du rôle de la prière dans l'évangélisation. La prière par elle-même, cela demande de l'explication, mais disons ce que nous pouvons apporter pour que l'évangile aille au-delà de nos localités, mais jusque dans le monde entier, parce que la prière, comme Jésus nous l'a enseigné, peut arriver à faire cela. Alors, gloire à Dieu pour déjà la pratique de l'évangélisation. Je ne vous ai rien enseigné de nouveau, mais le but que je poursuis en annonçant la parole de Dieu, c'est que nous puissions pratiquement parler de Jésus partout, de toutes parts, parfois nous programmer au-delà des circonstances où nous avons des occasions, de manière à ce que nous fassions reculer l'ignorance à l'égard de Jésus, du message aussi correctement prêché, parce que vraiment, on ne peut pas dire que dans notre pays, eh bien, on ignore que Jésus est venu, mais le message correctement prêché, de manière à ce que quelqu'un qui l'entend puisse se convertir. Amen. Alors, je vous invite à faire une lecture, il y en aura plusieurs, mais sans les lire, je les citerai. Mais on va lire dans l'évangile de Luc, chapitre 18 et le verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. » afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Et nous lisons la deuxième lecture dans Timothée. 1 Timothée, chapitre 2 et le verset 1er. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Alors, devant ces passages, d'une part, c'est Jésus qui a donné cette parabole montrant qu'il nous faut prier et qu'il nous faut prier jusqu'à voir le résultat. Bien souvent, on peut se décourager, mais je vais vous dire que quand même, vous verrez plus tard, déjà sur le terrain, mais dans l'éternité, dans le ciel, tout ce que la prière que vous aurez faite pour les gens qui sont perdus, aura apporté, aura délivré des hommes de tout peuple, toute tribu, toute langue, parce que nous avons prié. Et le Seigneur dira, je veux que vous priez, vous l'avez lu avec moi, pour tous les hommes, tous, parce que tous, ils voudraient qu'ils soient sauvés. Amen. Alors, je voudrais passer quand même, s'agissant de la prière, sur les quatre points fondamentaux de la prière, car il faut le dire, on ne sait pas toujours ce qu'est la prière, pas vous, parce que vous êtes enseigné, mais des gens qui prient dans le monde, il y en a partout. Mais les points qui font que la prière va prévaloir et que le Seigneur va l'entendre surtout, passent par ces quatre points, la foi, l'obéissance, au nom de Jésus, et la persévérance. Le Seigneur dira, je vais citer, il dira dans Matthieu 21, verset 18, « Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Priez. Est-ce que nous avons conscience parfois qu'il faut prier avec foi? Une confiance totale, je dirais presque aveugle, mais ce n'est pas aveugle puisqu'on est éclairé par la parole de Dieu. Si vous priez avec foi, il est dit, eh bien, vous recevrez. Parfois, on a les pensées qui se dispersent, qui s'en vont d'un côté de l'autre, et le Seigneur dira, il ne faut pas qu'il y ait un flot de paroles. Ne vous attendez pas à ce que parce que vous allez parler beaucoup, vous allez recevoir. Mais la foi, le Seigneur va très loin, jusqu'à dire, si vous aviez de la foi, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Mais quelle grâce! Le Seigneur est en train de nous communiquer la foi. Quelqu'un me demandait, mais comment avoir la foi? Je prie, mais je n'ai pas la foi. Mais la foi, elle vient de ce que le Seigneur nous a rassuré en disant, demandez par la prière, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est ça que le Seigneur nous communique. Il nous communique cette foi. Vous le croyez, frères et sœurs? Ça, c'est la fondation, la foi dans le Seigneur fiable, qui est la vérité. Il est impossible qu'il mente. Nous prenons ses promesses et par ces promesses, nous nous engageons à demander. Le deuxième fondement de la prière, c'est, enfin, ce n'est pas le deuxième, ça va en ligne directe avec ce que je viens de vous dire, c'est de prier précisément. Vous savez, le Seigneur a dit que vous devez prier quand il a enseigné la prière en disant, notre Père qui est aux cieux, mais donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est clair. Qu'est-ce que je demande? Je demande le pain. Et quand nous prions parfois, eh bien, nous prions beaucoup, nous disons beaucoup de choses au Seigneur, mais qu'est-ce que nous demandons? Et le Seigneur dira, mais si un enfant demande à son père du pain, lui donnera-t-il un caillou? Ce qui veut dire que le Seigneur veut que pour que nous ayons une assise à notre foi, que nous demandions précisément. Et là, on est dans le cadre de l'évangélisation. Je demande, Seigneur, que tu sauves cette âme. Je demande, Seigneur, que tu sauves dans ce pays. Et le Seigneur entend. Et nous, nous regardons aussi l'exaucement d'une manière concrète. Et c'est ça, la prière de la foi avec des précisions. Et puis, un autre fondement, c'est l'obéissance. Car on ne peut pas prier comme ça en se disant « mais je prie ». Le Seigneur dira « si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si mes paroles demeurent en vous, demeurent en moi, eh bien je dois savoir que je peux demander ce que je veux et cela me sera accordé. » Il est dit dans Proverbes 28, verset 9, « Mais si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même devient une abomination, une malédiction. Ce qui veut dire que prier sans obéir à Dieu, ça ne sert à rien, c'est même une abomination. Le Seigneur dira, Ésaïe 59, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Alors priez, oui, c'est d'accord. Et même si on priait une heure, deux heures, ou trois heures, ou quatre heures par jour, mais s'il y a le péché qui est gardé, ça ne sert à rien. Ça empêche Dieu de nous écouter. Alors, c'est vrai que c'est une fondation extraordinaire, incontournable. Si je veux prier pour être entendu et exaucé, je dois me repentir de tout péché. Je dois m'assurer que mon cœur est pur et que même si j'avais une faiblesse, j'ai demandé au Seigneur de me pardonner, de m'en délivrer. Alors, le Seigneur dira que là, eh bien, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez et cela vous sera accordé. Amen. Et puis, cette fondation aussi qui est, Jésus dira, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans son Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jean 14. Voilà, on ne peut pas se dire, « Moi je prie X, Y, mais Jésus dira de prier le Père en son nom. » C'est plus que le nom, c'est-à-dire en sa personne, en la personne de Jésus qui a tout accompli, qui est notre justice, notre sagesse, notre sanctification, notre rédempteur. C'est par lui que le Père nous entend. Ce n'est pas au nom de ma forme ou d'une belle journée qui se prépare pour moi, où je suis en forme, je saute de partout, alors là le Seigneur va m'exaucer. Non, non, c'est pas ça. En forme ou pas, quand on se prévaut du nom de Jésus avec respect, avec amour, eh bien, le Père nous écoute, nous entend, nous exauce. Amen. C'est écrit. Et puis, comme nous l'avons lu, le quatrième fondement de la prière, c'est que Jésus enseignera qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Ne pas se relâcher. Il y a eu peut-être des moments, on a fait des séminaires, des retraites spirituelles, on a prié longtemps, on a prié souvent, et puis après il y a eu relâchement. Le Seigneur dira qu'il faut toujours prier et persévérer dans la prière. Éveillez-y avec action de grâce. Je veux continuer, je veux être endurant, c'est comme une course de fond, il faut aller jusqu'au bout, il faut finir. Et parfois, nous abandonnons trop tôt. Nous demandons, et puis si ça ne se passe pas au bout d'une fois, deux fois, eh bien, nous abandonnons. Non, le Seigneur dira, il faut persévérer dans la prière jusqu'au bout. Et d'ailleurs, le Seigneur le dira, s'agissant même de la foi, il dira, mais quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi parmi mes disciples? C'est parce que finalement, bien souvent, nous abandonnons la prière. Le Seigneur dira, vous voyez la veuve devant le juge unique? Eh bien, elle lui a rompu la tête, il commençait à avoir la tête cassée. Eh bien, il a pu céder parce qu'elle demandait comme ça avec persévérance. Mais nous, on a un Dieu bon, on a un Dieu d'amour, on a un Dieu qui nous encourage à lui demander et à prier avec foi. Comment se ferait-il que nous ne continuerons pas jusqu'à voir sa gloire? Amen. Alléluia. Ça, c'était les fondations de la prière. Et maintenant, vous savez, on rentre dans le sujet, l'évangélisation par la prière. Jésus parlera que nous avons besoin de prier. Il dira, je vous laisse cette promesse. Attendez et vous recevrez une puissance dans le Saint-Esprit. L'évangélisation passe, bien sûr, par la prière pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et ça, frères et sœurs, à le début de l'ère de l'Église, a fait que ça a commencé par le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, et c'est incontournable. Si nous voulons évangéliser le monde, nos voisins et jusqu'à nos familles, et les gagner à Christ, il nous faut la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que vous croyez que les disciples ont fait? Ils se sont mis en prière, et ils ont prié, non pas pour beaucoup de choses, mais ils ont prié, « Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit ». Et vous le savez, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est tombé sur chacun d'entre eux, et ils furent remplis du Saint-Esprit. D'autres diront, « Mais vous parlez en langue, que se passe-t-il ? » Eh bien, l'apôtre Pierre dira, « Eh bien, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux que le Seigneur appellera. Alors, frères et sœurs, avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit? Nous sommes dans le désir de porter la bonne nouvelle partout, d'enrayer la misère, le péché, le mal en convertissant les âmes. Ce n'est pas possible sans la puissance du Saint-Esprit. Oserions-nous? Ils n'ont pas osé, même les premiers disciples qui avaient été avec Jésus et tout ça, ils n'ont pas osé partir sans avoir reçu la puissance du Saint-Esprit. Il est dit que c'est pour tous, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Vous y êtes dedans. Tous. Amen. Et donc c'est une promesse et vous devez demander, dans le cadre de la prière que nous avons dite, demander la puissance du Saint-Esprit. D'ailleurs, c'était tellement important au début qu'aujourd'hui on ne peut pas banaliser le fait du baptême du Saint-Esprit. Quand Philippe est allé dans une ville de Samarie, il a prêché le Christ et il y a eu beaucoup de conversions, des miracles, et hommes et femmes se firent baptiser. Mais on a dit aux apôtres à Jérusalem, il faut envoyer quelqu'un pour que de suite, ils reçoivent le Saint-Esprit. Et Pierre et Jean sont partis et ils ont prié. Et il est dit ceci, qu'ils prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était descendu sur aucun d'eux. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. C'était important parce qu'ils se sont dit, c'est bien que l'évangéliste Philippe ait prêché dans une ville de Samarie. C'est bien tout ce qui s'est passé. Mais comment l'évangélisation va-t-elle continuer? Elle va continuer par l'Église qui est en train de se créer. Et pour que l'Église puisse continuer l'évangélisation, ça ne sera plus qu'avec un évangéliste, ça sera tous les chrétiens qui vont la perpétuer, qui vont évangéliser. Et pour ce faire, il y a besoin qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Amen. Oh, je voudrais, en disant ce message, vous donner cette soif. Parce que le Seigneur, il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive jailliront, couleront sur eux pour tous ceux qui croient. Et si cette soif, frères et sœurs, est en vous, vous n'allez pas pouvoir passer la journée sans dire, « Seigneur, mais remplis-moi du Saint-Esprit. » Je vois le bien fondé d'être rempli du Saint-Esprit. Il y a tellement de choses qu'il va faire en nous, dans notre vie. Être crucifié avec Christ, être ressuscité avec lui, vivre vainqueur de la chair. Mais c'est vrai que nous parlons aujourd'hui avec le Saint-Esprit. Nous allons convaincre, nous allons parler. Nous allons être persuasifs, nous allons être délivrés de la timidité. Et c'est un esprit d'amour, de force et de sagesse dont nous allons être remplis de cette puissance du Saint-Esprit. Et puis, lorsque Paul est arrivé à Éphèse, il a trouvé 12 hommes qui étaient croyants au Seigneur Jésus. Et puis, il leur manquait quelques données pour la conversion, pour le baptême. Paul les a instruits, mais il leur a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? On n'a même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Et alors, il leur a enseigné le baptême du Saint-Esprit, et il a dit ceci, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Alléluia! Alléluia! Et vous savez, quand Pierre il est allé chez Corneille, et que c'était les païens qui commençaient à recevoir l'Évangile, quand on lui a demandé des comptes, les Juifs, eh bien, se demandaient, mais quand même, tu es allé chez les païens, on voudrait savoir et tout ça. Oh, lui, il a fait ni un ni deux, il a fait référence au baptême du Saint-Esprit. Et il a dit ceci, « Lorsque je me mis à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au commencement. » Plus personne n'a parlé. C'était la preuve que c'est avec le Saint-Esprit qu'il faut faire l'œuvre de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que les églises sont fondées. Il n'y a pas de fondateur, il n'y a pas d'homme qui va fonder une église. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Alléluia. Et puis, je vais vous dire, frères et sœurs, juste parce que c'est la parole de Dieu qui le dit et qu'on ne peut pas, des fois, passer au-dessus. Vous savez, quand le Saint-Esprit nous remplit, eh bien, il est dit qu'ils s'en allèrent prêcher partout, les apôtres, les disciples. Et il est dit que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et nous en avons besoin, frères et sœurs. Je ne dis pas qu'il faut les miracles pour se faire sa publicité, pour dire chez nous, nous sommes pentecôtistes, nous avons des miracles, regardez tout ça. Les miracles, c'est pour glorifier le Seigneur. C'est pour que justement les gens aussi voient que Jésus est ressuscité, qu'il est toujours le même. Mais j'ai voulu consigner quelques paroles sans vous faire lire, mais je vais vous les citer, écoutez. Vous pourriez même écouter ce que je vais vous dire en fermant les yeux et en disant, c'est ça l'évangélisation aussi. Je vous lis la parole. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le baptême du Saint-Esprit. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Sainte-Anne, à Jérusalem, dans la France, à Toulouse, partout. Voilà. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Et Étienne, plein de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Et maintenant, les chrétiens se sont mis à prier parce qu'il y avait des persécutions, de l'opposition. Et maintenant, Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Et le lieu dans lequel ils étaient se mit à trembler, imaginez un peu cela ce matin, hein, le lieu dans lequel ils étaient s'est mis à trembler et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pas de menaces, pas de persécutions qui tiennent. Il va falloir que quelqu'un au-dessus de tout, la personne du Saint-Esprit, prenne ces choses en main et ça s'est passé. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Même Simon, le magicien, les avait longtemps étonnés par les actes de magie, mais il y a eu la supériorité de tout cela par les miracles, par les signes que le Saint-Esprit manifestait. Beaucoup de miracles et de prodiges. On est dans les débuts de la Pentecôte et on est, nous aussi, les enfants de la Pentecôte. Pareil, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits, des couchettes, afin qu'au moins l'ombre de Pierre passerait, ceux qui étaient là étaient guéris. Qu'est-ce que ça vous fait, frères et sœurs? Ça ne vous donne pas envie? Je dis, il n'y en a pas un des hommes sur la terre Ils peuvent s'appeler plus grands évangélistes que ci, que là, qui puissent faire cela. Mais le Saint-Esprit veut, en nous remplissant de sa puissance, que ces miracles se passent aujourd'hui, frères et sœurs. Alléluia. Et cela va faire avancer l'évangélisation, puisque nous sommes en train de le voir. Beaucoup, de plus en plus, un grand nombre. Pierre trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Vous pouvez prendre ces paroles pour aujourd'hui, parce que Jésus n'a pas changé. Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lydde et Saron le virent et se convertirent au Seigneur. On aimerait de voir des villages entiers se convertir à cause de la gloire que le Seigneur manifeste par des miracles. Il ne va pas faire de la pub à un homme, à la renommée d'une église, mais à sa gloire. D'ailleurs, Jésus l'a dit, quand Lazare est mort, il a dit « cette maladie est pour la gloire de Dieu, elle est à la gloire de Dieu ». Parce que quand il a trouvé Lazare, eh bien, ainsi, il l'a ressuscité et tout le monde a vu la gloire de Dieu. D'ailleurs, Jésus l'avait dit à Marie, « si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu ». Frères et sœurs, je voudrais ce matin que nous puissions croire que ces choses vont se passer parce que c'est le même Seigneur. Et si ça a été écrit, ce que je vous cite, c'est parce qu'il ne fallait pas le contourner. Il faut le prendre en disant « actuellement, Jésus est le même ». Hier, aujourd'hui, éternellement, il baptise du Saint-Esprit et il confirme sa parole. Tabitha, lève-toi. Et il est dit que Pierre donna la main à Dorcas et il la fit lever. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Alléluia. J'en profite pour vous dire que vous avez lu sur le Pentecôte le témoignage qui s'est passé chez les Gourmanchés dernièrement. Une dame de 30 ans environ est décédée et le décès a été confirmé puisque dans ces villages-là, eh bien, on n'appelle pas le docteur, mais c'est les anciens qui viennent, qui attendent et qui confirment le décès. Et puis entre-temps, il est dit que il y avait des chrétiens, les chrétiens de Chichi, donc ils étaient là et ils se mettaient à pleurer, ils avaient commencé à appeler, c'est la coutume comme ça, les pleureuses, pour pleurer la défunte. Mais il est dit que quelques chrétiens dans la hardiesse de la foi ont appelé les pasteurs qui n'étaient pas là. Ils ont tardé à venir parce qu'à l'époque, dans cet endroit, des fois c'est le vélo ou c'est à pied. Et ils ont tardé à venir. Et tout le monde pleurait. Et puis les chrétiens qui entouraient la défunte, ils ont dit, il faut prier, il faut prier, il faut prier, Dieu peut nous la redonner. Vous lirez cela. Et puis moi j'ai reçu un coup de fil quand ça s'est passé. Ça a été extraordinaire. Et ils se sont mis à prier. Et le Seigneur a permis que cette femme soit ressuscitée, qu'elle ouvre les yeux, qu'elle se mette à parler. Et en même temps, elle a été guérie de la maladie qui l'avait amenée au décès. Elle a été guérie. Ça a été extraordinaire. Même la radio est venue pour interviewer. Et même les chrétiens, vu la situation là-bas, étaient un peu encore timides. Il est dit que même c'est les incroyants qui se sont emparés de l'affaire et qui ont commencé à la diffuser partout. Alléluia. Je veux tout simplement dire, c'est le Seigneur Jésus qui dit que en nous remplissant du Saint-Esprit, il va y avoir les mêmes choses que nous avons vues que Jésus faisait, et au temps des actes des apôtres, que Dieu soit loué. Amen. Et puis, malgré tout, acte 12, 19, il est dit que par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, ils allèrent jusqu'en Phénicie, l'île de Chypre, Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant, parmi eux, quelques hommes de Chypre et de Cyrène, s'adressant aussi aux Grecs, et leur annoncèrent la bonne nouvelle de Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes se convertirent au Seigneur. Alléluia. Je ne me contredis pas. Si le Seigneur veut faire des miracles, il les fait. Mais vous savez, là, il n'est pas question de miracle, mais il est question des frères et des sœurs, des disciples qui parlaient, qui témoignaient, qui annonçaient Jésus. Et là, beaucoup se sont mis à croire, et c'est là que l'église d'Antioche a été fondée. Alléluia! Alors, je veux dire aujourd'hui, prions pour être remplis du Saint-Esprit, prions pour qu'il y ait des miracles, que le Seigneur fasse cela, pour qu'il y ait une avancée extraordinaire dans l'évangélisation et dans le fait de faire reculer, eh bien, toutes les ténèbres et toute l'invasion occulte qui tient les gens qui sont prêts à croire, mais malheureusement, ils ne croient pas la vérité. Alors maintenant, frères et sœurs, il faut quand même que je vous dise, et j'ai juste anticipé, que quand nous prions, le Seigneur l'a dit qu'il ne fait rien sans la prière, et nous l'a bien enseigné. D'ailleurs, il a dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et il dira que même Élie était de la même nature que nous. Il a prié, le ciel s'est fermé. Il a prié, le ciel s'est ouvert 3 ans et demi après. Et il dira que nous aussi, nous devons croire que par la prière, quelque chose va se faire d'extraordinaire. Parce que c'est Jésus qui le fait. Alors, permettez-moi de vous dire ceci. Le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas la politique de l'autruche. Il y a le mal qui gagne. Il y a une sphère que le Seigneur a laissée à l'ennemi. On ne sait pas pourquoi. Ce n'est pas d'ailleurs mon sujet aujourd'hui. Et nous devons savoir que le monde est tenu par la puissance du diable. Et il faut le savoir, ça n'excuse pas que les gens qui pêchent, eh bien, ils sont condamnables. S'ils vivent dans le péché, on ne va pas dire, ça c'est le diable. Oh, c'est le diable qui me l'a fait faire. J'ai menti, c'est le diable qui m'a fait faire. Non, chacun est responsable de la vie qu'il mène. Mais quand même, il faut savoir que le Seigneur nous demande de prier pour que le diable puisse être vaincu. Il est vaincu, déjà, par Jésus mort sur la croix, mais par la prière. Vous savez, la parabole de la veuve devant le juge unique, elle dira « ma partie adverse ». Et l'adversaire tient les âmes dans l'ignorance, dans les ténèbres, et nous devons combattre. Il est dit, le Seigneur dira dans Éphésiens, qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Ce n'est pas des démarches. Ce n'est pas des manifestations, même si, gloire à Dieu, il y a des gens courageux qui font des défilés pour la cause de Christ. Mais il est dit qu'il y a des dominations, il y a des autorités, il y a des puissants de ténèbres et il y a des princes de ce monde de ténèbres. Et il est dit que, par la prière, nous devons prendre toutes ces armes et nous devons prier et d'y veiller avec persévérance, pour que les ténèbres soient aussi reculées et que les âmes qui sont tenues puissent être éclairées. Il est dit que le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire le faux Dieu, eh bien, il voile les cœurs. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Et nous devons le savoir. Nous, on a cru. Mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'au moment où nous avons cru, c'est que la lumière de Christ, elle est supérieure aux ténèbres, comme la lumière naturelle aussi. Hein? Quand vous êtes dans une pièce obscure, vous allumez la lumière, qu'est-ce qui remporte la victoire? C'est la lumière. Et vous savez, quand on prêche l'Évangile, eh bien, c'est la lumière. Quand vous témoignez de Jésus, c'est la lumière qui vient. Et l'aveuglement et les ténèbres s'en vont. Le Seigneur dira qu'il n'y a qu'une arme qui soit défensive et offensive, c'est la parole de Dieu. Et vous savez, le diable, il ne s'en va pas en disant « Satan, va-t'en, va-t'en, va-t'en ». Jésus dira « à Satan, il est écrit. Et ce que nous devons, nous, eh bien, c'est annoncer la parole de Dieu. Nous devons annoncer la vérité, comme disait l'autre jour, ne maudissez pas les ténèbres, mais allumez une bougie. Et parfois, eh bien, il y en a qui, je ne vais pas les critiquer, qui sortent et ils vont dans un quartier d'une ville, et là, ils chassent les ténèbres d'une région, d'un quartier d'une ville, ou là où il y a une fontaine, ou peut-être dans l'histoire, il y a eu des ténèbres. C'est plus que ça, ce n'est même pas ça. Ce que nous avons besoin de savoir, c'est que nous devons prier et annoncer la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. L'ennemi a peur quand nous croyons la vérité et quand nous l'annonçons. Et c'est ainsi que nous pourrons avancer. Alléluia. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on a quelque chose qui fait que les stratégies de la guerre sont défiées. Il est dit que Josué combattait dans la plaine contre Amalek, l'ennemi. Et puis Moïse, Aaron et Hur, ils étaient sur la montagne. Et Moïse priait, les mains levées. Et il est dit que quand il avait les mains levées, eh bien c'est Josué qui avait la victoire sur Amalek. Mais quand les mains fléchissaient, eh bien il est dit que Amalek reprenait le dessus. Alors ça défie toute stratégie de guerre. On se dit, mais comment ça se fait? Juste parce que Moïse prie, Josué est vainqueur de l'ennemi. Mais si nous savions que dans le Nouveau Testament, il est montré cela, que quand nous prions, toutes sortes de prières faites dans le nom du Seigneur Jésus, l'ennemi s'en va et nous pouvons eh bien gagner des âmes qui verront totalement clair. Même, Jésus le dira, cette espèce-là de démon, comme l'avait ce fils lunatique, ne sort que par la prière et le jeûne. Et vous savez, je ne vais pas faire un grand discours là-dessus, mais quand nous nous tenons devant le Seigneur, que nous mettons un temps à part pour nous priver de repas et que nous épanchons notre âme devant le Seigneur, c'est là aussi que le Seigneur peut remporter, il a remporté la victoire surtout, mais le Seigneur nous permet de remporter la victoire pour gagner des âmes à sa cause. Alléluia. L'évangélisation par la prière, nous venons de voir maintenant que nous pouvons gagner des âmes en faisant partir les ténèbres au nom de Jésus, mais je vais vous dire maintenant, par la prière, le Seigneur dira, vous allez prier, parce que la moisson est blanche, il y a peu d'ouvriers, afin que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. La prière, vous le faites, frères et sœurs, que Dieu envoie des ouvriers. Vous allez me dire, oui, les ministères, et il en faut beaucoup. Il y a des peuples qui vivaient dans les ténèbres, l'obscurantisme, et puis il est arrivé des missionnaires qui ont changé justement le décor, parce qu'ils ont été envoyés, mais pas d'eux-mêmes. Pendant la hardiesse, du courage, le Seigneur les a envoyés. Et nous devons prier que Dieu envoie des missionnaires sur la terre entière, que Dieu envoie des pasteurs, des ouvriers partout. Amen. Et ça, c'est Jésus qui l'a dit. Il ne le fera pas si vous ne priez pas. Il a dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. C'est écrit. Et voilà qu'il se pourrait bien que quand vous êtes en train de prier, Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson, toi, vas-y. Le Seigneur répondra par vous-même. Ça arrive, ça aussi. Et maintenant, je veux dire, prier le maître dans la moisson parce que les ouvriers sont peu nombreux, c'est de prier, comme je vous les ai dit les autres dimanches, pour que Dieu nous envoie à tous. Nous sommes tous les ouvriers, nous sommes en connaissance du message. Nous avons la bonne semence. Nous sommes les possesseurs du savoir-faire. Par Christ, nous connaissons la vie éternelle. Mais si nous n'y allons pas, il ne faut pas attendre que des ministères dons. Il faut savoir que si tout le monde se met à évangéliser, eh bien, comme je vous le disais l'autre dimanche, si une personne, un frère, une sœur, parle à une nouvelle âme par semaine, et qu'on ait 300, ou peut-être plus, mais 300 pour 52 semaines, ça fera 15 600, je crois, personnes nouvelles à qui nous avons parlé de Jésus. Alors, prions, frères et sœurs, moi je prie pour vous, je prie pour l'Église, pour chacun de vous, pour que vous soyez des témoins, que vous parliez de Jésus, et même s'il n'y a pas parfois la réussite, mais vous êtes déjà dans l'ordre de mission, vous accomplissez la volonté de Dieu. Alors prions le maître de la moisson d'envoyer tous les disciples, toutes les églises locales de la France, du monde entier, se mobilisent en disant « Maintenant, ça suffit, nous n'allons pas nous taire. Ouvre la bouche pour l'accord de tous les délaissés, pour ceux qui vont mourir », il est dit dans Proverbe. Et il est dit « Si tu dis « Ah, je ne savais pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas ?» Le Seigneur veut que l'on parle de lui et que l'on prie pour que Dieu nous envoie à tous. Priez aussi pour que, eh bien, Dieu donne aux serviteurs de Dieu, eh bien, la force de continuer à évangéliser. Tous les serviteurs de Dieu. Amen. C'est vrai qu'il y a des ministères dont la sensibilité est pour l'édification, l'enseignement, mais dans tous les domaines, le serviteur de Dieu, tout doit concorder à ce que nous poussions toute l'Église, tous les frères et sœurs, à parler de Jésus, à témoigner. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules. Priez pour moi, disait Paul, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Alléluia. Priez pour les serviteurs de Dieu, priez pour tous ceux qui sont à temps plein, priez pour que vraiment tous les disciples se mettent à évangéliser, prions pour cela. Et puis, comme nous l'avons lu au début, je vous exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Je vous en prie, frères et sœurs, avant toute chose. On ne rencontrera pas peut-être les habitants dans des antipodes, en Australie, là-bas, peut-être chez les Papous. Mais nous prions pour eux. Nous prions, Seigneur. Aujourd'hui, c'est facile de se procurer toutes les cartes des environ 200 pays du monde, plus les archipels, plus les îles. Et tous ces pays ensemble, eh bien, nous pouvons les regarder et prier pour tous les habitants de ces terres. Dieu le veut. Car Dieu veut que tous les hommes, tous les êtres humains soient sauvés. C'est écrit. C'est écrit. Vous allez me dire, mais quand on fouille bien, quand on gratte bien la parole de Dieu, l'Apocalypse, une fois le retour de Jésus, tout ça. Mais pour le moment, le Seigneur dira, moi, je suis mort sur la croix pour les péchés du monde entier. Je veux que tous soient sauvés. Cette parole de l'Écriture a été accomplie. L'année de grâce, elle est pour tout le monde. Et nous devons prier pour tous les hommes, tous les êtres humains. Quand vous rencontrez des âmes, que vous marchez dans la rue, priez. Quand quelqu'un vous fait, eh bien, un mauvais signe, priez pour lui. C'est important parce que on ne peut pas savoir jusqu'où, à quel aboutissement, eh bien, cette prière va nous mener. Prions pour tous les chrétiens. Il est dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Alléluia. La prière dans l'évangélisation, la prière pour les reperdus, les personnes qui ont, on dit, entre parenthèses, les rétrogrades, les fils et filles prodigues, priez. Même, c'est une prière de douleur, dont l'apôtre Paul dira, je prie tout à nouveau. Je sens les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et cela, c'est des fois la douleur de voir des frères et sœurs qui ont quitté le Seigneur, eh bien, nous devons prier. Ça fait partie de l'évangélisation pour que tout à nouveau ils viennent au Seigneur et soient sauvés. Amen. Je termine, frères et sœurs, mais juste un peu de patience. Il est dit dans Ésaïe 55, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Ésaïe 59, « L'Éternel s'étonne de ce que personne n'intercède, et alors son bras lui vient en aide. » Alors je me suis posé la question, pourquoi donc nous prions si peu? Peut-être ça ne vous va pas ce que j'ai dit là. S'il faut, vous êtes dans la prière et vous avez reçu 5 sur 5 ce que je vous ai dit et vous allez même plus loin. Gloire à Dieu. Mais pour ceux qui ne prient pas, ou très peu, laissez-moi juste un instant vous dire ceci. Ça sera ma conclusion. Si, tant il est vrai que la prière peut faire reculer l'ignorance de Jésus, sauver tous les hommes, si nous ne nous adonnons pas à la prière, quelle responsabilité pèse sur nous? Alors, vous savez, j'ai souvent vu que si nous ne prions pas, c'est que nous avons nos inquiétudes personnelles qui nous empêchent de penser à cela. Peut-être ce que vous entendez, ça peut vous passer au-dessus de la tête parce que vous avez vos problèmes. Et pourtant, le Seigneur dira de se décharger sur lui de tous nos soucis, de tous nos fardeaux, car il en prend soin. Et à partir de ce moment-là, on s'inquiète du sort et de la destinée finale des perdus. Alors, frères et sœurs, l'inquiétude, mettez-la entre les mains du Seigneur, je vous en supplie, parce que toute la vie, vous aurez toujours des problèmes, des chagrins, des difficultés, mais le Seigneur a résumé tout en disant, « Venez à moi, fatigué, chargé, et je vous donnerai du repos. Je les prends sur moi. Ne vous inquiétez de rien. » D'ailleurs, l'inquiétude ne va rien ajouter, ni même la couder à la durée de votre vie. Pourquoi vous inquiétez? Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Amen. Il y a aussi, pourquoi nous ne prions pas, le siècle présent. Il faut quand même se dire, le Seigneur a dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. Et puis, il est dit qu'il est inimitié contre Dieu, l'amour du monde. Alors, bien souvent, on est pris. Mettez-vous sur vos gardes, de peur d'être entraîné par l'égarement des impies et que vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce que l'on entend, tout ce qui est véhiculé par les médias, fait que parfois on est à 1000 lieues de ce que nous entendons ce matin. Et pourtant, le Seigneur y dira, aimez tous les êtres humains, aimez votre prochain, mais n'aimez pas le péché, la mentalité de ceux et du péché qui a crucifié Jésus. Si nous aimons le monde, nous sommes avec la foule qui disait qu'il soit crucifié. Et souvent, c'est cet empêchement qui est là. Vous êtes étrangers, vous êtes voyageurs sur la terre. Abstenons-nous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et à partir du moment où nous comprenons cela, nous sommes dégagés pour nous préoccuper de notre ordre de mission que le Seigneur nous a demandé, c'est de faire connaître à tous la bonne nouvelle. Il y a aussi, frères et sœurs, pourquoi nous ne prions pas, la solitude. La solitude, on est seul, c'est jamais le moment de s'y mettre. Pourtant, nous sommes capables de l'être programmés pour à telle heure, on part au travail. Qu'il y ait les dérangements, les voisins, le téléphone qui sonne, de toute façon, c'est l'heure de partir au travail et il faut que j'y sois. Et comment ça se fait que nous ne programmons pas, eh bien, une plage de temps qui va nous permettre de dire, maintenant, c'est la prière. Je dois passer du temps devant Dieu. Et parfois on dit, oui, mais je suis à la réunion de prière et il faut être à la réunion de prière et il faut prier tous ensemble. Le Seigneur le dira. Si deux au moins sur la terre s'accordent. Mais la prière seule, c'est ce que je veux vous parler aujourd'hui. Vous savez, Jésus a prié beaucoup de temps tout seul. Même Élie, quand j'en faisais mention, était un homme assez solitaire dans la prière. Dieu devant lequel je me tiens a dit. Et vous savez, c'est important. Il faut de la fermeté et il faut savoir que quand on prie après, on en reçoit la joie, la paix. Et puis, c'est quelque chose de nouveau qui s'est passé en nous, parce que comme on prie, on a touché de notre cœur la présence de Dieu. On est en communion permanente, où que l'on aille. Et puis, vous savez, la prière aussi, souvent on ne la fait pas parce que le diable rôde. Il rôde et son rugissement fait peur et fait frémir. Alors le diable rôde, il veut que l'on doute de la parole de Dieu. Oh, tu sais, ce que tu entends, ce n'est pas sûr qu'il faille appliquer tout ce que tu entends ici. Et le diable veut faire douter. Il veut qu'on ait d'autres préoccupations que celles de l'ordre de mission d'évangéliser le monde. Et parfois, le diable se sert aussi de nos échecs passés, de nos souffrances, de nos meurtrissures, de nos blessures, pour qu'on ne soit jamais en état de prier. Mais ça aussi, vous pouvez le circonscrire, le chasser, parce que le Seigneur vous donnera sa paix. Parfois, c'est la fatigue, c'est-à-dire des phénomènes bizarres qui peuvent tomber sur nous quand nous décidons de prier pour les perdus, pour les âmes. Pas du tout fatigué quand c'est un film. On est réveillé jusqu'à la fin. Mais mettez les 2 heures en prière plutôt que les 2 heures au film, vous allez voir, il n'y a pas la même force, il n'y a pas la même vitalité. Qu'est-ce qu'il y a? L'ennemi, surtout, il ne voudrait pas que l'on prie. Alors, il ne le veut pas, mais il est vaincu par Jésus. Donc j'ai l'autorité, j'ai le pouvoir et j'ai décidé d'obéir au Seigneur et je m'y mets. Alléluia. Et puis, vous savez, je vais vous dire aussi que souvent, j'y reviens, on ne prie pas parce qu'on manque de foi. On ne croit pas que la prière peut être efficace, pourtant c'est dit, qu'elle peut faire changer les choses, c'est-à-dire dans le meilleur que le Seigneur dit, que Dieu ne fait rien sans la prière. On ne croit pas cela. Et puis, je vais vous dire quelque chose, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est parfois, eh bien, sous-entendu, en filigrane, eh bien, que Dieu se réduit à notre oui ou non dans la prière. Tu pries, voilà ce que je vais faire, voilà ce qui s'est passé, voilà le monde qui a été sauvé, tu pries pas, les gens restent ce qu'ils sont. Quand on pense à cela, eh bien, ça nous fait mal quand le peuple de Dieu ne peut pas et n'embraye pas le pas concret de la prière. Et puis, je termine en disant ceci. Et si, frères et sœurs, quand on lit l'histoire des réveils de la Pentecôte, de plus en plus, le nombre des disciples était, ça croissait, tout cela. Quand on lit l'histoire des réveils qu'il y a eu au cours des âges, et comment même des chrétiens qui vivaient impunément et tranquillement, sans se soucier de ce qu'ils étaient, tout d'un coup il y a un réveil, eh bien, ils confessent leurs péchés. Ils voient le drame et la tragédie vers laquelle ils allaient. Ils ne l'avaient pas vu tant qu'il n'y avait pas un réveil. S'il y a un réveil, alors je peux vous dire, frères et sœurs, c'est à grande échelle que l'évangélisation va aller. Ça va toucher beaucoup de monde. Et aujourd'hui, il s'agirait, vu et au regard de l'imminence du retour de Jésus, que nous puissions nous adonner à la prière pour le salut de l'humanité. Nous ne pouvons pas être satisfaits, même si on bousculait les murs et qu'on enlève le plafond, qu'on mette des étages et qu'on dise, voilà, notre église locale, elle est pleine de 1500 personnes par rapport à presque 1 million de personnes sur Toulouse ou 7 300 000 000 d'habitants sur la Terre. Peut-on être satisfait d'une grande église? Nous avons, frères et sœurs, en main le pouvoir que le Seigneur nous a conféré, nous a donné. Nous devons prier, frères et sœurs, pour le réveil. J'ai un message là-dessus, je ne le dirai pas maintenant, mais je vous assure que le jour où le Saint-Esprit, comme le jour de la Pentecôte, vient tout à nouveau, je dirais tout à nouveau, visiter le peuple de Dieu, il visitera aussi les incroyants et les gens qui ne sont pas touchés, les gens qui sont à mille lieues de pensée, qui se convertiront, eh bien, ils seront touchés dans leur maison, dans leur lit, en pleine nuit. Et ça, il faut y croire, frères et sœurs, parce que par la prière, nous faisons tomber les montagnes, nous les faisons jeter à la mer. Et le Seigneur le dira que nous devons prier, prier jusqu'à voir quand il viendra, qu'il trouve encore la foi sur la terre de ses frères et sœurs qui vont jusqu'au bout. C'est ce théologien Thoré qui disait « Les plus grands sur cette terre, ce sont ceux qui prient. » Il le disait comme ça, parce que certainement qu'il devait prier. Pas seulement ceux qui croient à la prière, pas seulement qui donnent des explications sur la prière. Je veux dire des gens qui prennent le temps de prier. Que le Seigneur nous aide, nous bénisse, et que l'évangélisation batte son plein, autant par votre témoignage, frères et sœurs, que par la prière, eh bien, nous pourrons toucher le monde. C'est écrit, tous les hommes, Dieu veut qu'ils soient sauvés. Je ne dis pas une mauvaise doctrine en disant cela. J'ai le frère Olé qui est docteur de la parole et qui connaît la parole de Dieu. Je ne m'aventure pas à dire cela pour vous faire rêver, mais c'est écrit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ce n'est pas possible que l'on puisse rester eh bien, avec l'inspection de l'état des lieux. On fait le constat et on dit « le monde est comme ça ». Et puis on critique même les inconvertis dans le péché, dans la misère. Eh bien non, prenons maintenant vaillamment l'assaut et croyons par la prière, par la plénitude du Saint-Esprit et notre témoignage vécu et parlé que nous pourrons gagner le monde. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur, que ta parole qui poursuit le but, que nous ne nous bornions pas à l'écouter, mais à la mettre en pratique. Aujourd'hui, Seigneur, malgré toutes les réformes nombreuses que nous ayons à faire, nous disons oui au Seigneur, à l'égard de ce qu'il nous appelle à être et à faire, et nous le ferons, nous y arriverons, parce que tout a été accompli pour que l'obéissance à sa parole puisse se faire de la part de tous, de la part de tous les chrétiens. Au nom de Jésus, bénis, Seigneur, le monde perdu, et que aujourd'hui, Seigneur, nous puissions avoir élargi notre vision comme la tienne et sentir ce fardeau peser de plus en plus sur nous. Comment pourrons-nous nous relever de la prière si nous nous rendons compte que le salut du monde dépend aussi de l'investissement et de l'engagement des disciples à évangéliser et à prier. Oh, à toi la gloire, Seigneur, qui a tout fait, mais jamais tu ne feras ce qui nous incombe à nous de faire. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen.